bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite FM sur le 88.4, c'est une nouvelle édition de votre émission Portrait. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous recevons Ourissi. Bonjour.
Bonjour.
Guyancourtoise, donc vous avez 36 ans et nous avions reçu en mai dernier pour parler de votre projet de livre Mama va au pot, un projet qui s'est voilà, concrétisé puisque j'ai deux tomes ici qui sont sur la table du studio de Marmite FM. On en reparlera tout à l'heure de ce bouquin. Mais on vous a invité Ourissi d'abord pour que vous nous parliez un petit peu plus de vous. Voilà. mais il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de synthétiser. Et cette émission Portrait, si vous avez l'habitude de l'écouter, peut-être pas, elle commence toujours par la traditionnelle carte d'identité. Alors évidemment, comme je le répète aux auditrices, aux auditeurs, nos invités ont toujours la petite carte joker. D'accord. Voilà, s'il y a des petites questions...
Vous l'avez utilisé combien de fois?
Ah, bonne question. Une fois, deux fois, on verra, on verra. Alors, votre nom de famille, donc si...
C'est bien moi.
On l'a dit. Voilà, pour les si, hein, on va pas vous faire...
Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de si, il y a des si connus.
Voilà.
Voilà, et des si plus anonymes. Votre prénom, Ourissi.
C'est Ourissi.
Ouais. Alors, ce prénom, Ourissi, qu'est-ce qu'il veut dire?
Qu'est-ce qu'il
signifie? Particulière?
Alors, on me l'a raconté quand j'étais jeune. Le souvenir que j'ai, ça veut dire que c'est la vie. Voilà.
Ça veut dire la vie.
Voilà. En quelque sorte, pour résumer, pour faire simple.
Ouais.
Parce que ça veut dire plein de choses.
Et c'est un prénom qu'on donne où en général?
Au Sénégal, c'est Peul. C'est un prénom ancien. C'est du style, comme il n'y en a plus beaucoup maintenant, Marguerite, vraiment des prénoms anciens. C'est vraiment un vieux prénom, quoi.
C'est le Marguerite du Sénégal.
Voilà, c'est ça.
Vous avez d'autres prénoms, d'ailleurs?
C'est le seul et unique et j'en suis fière. Ouais.
Donc, vous avez 36 ans, je le disais tout à l'heure en introduction. Alors, vous êtes né quand?
Alors, vous êtes en train d'insinuer que j'ai perdu la mémoire. Le 3/12/1982.
Ah, c'est pour ça votre anniversaire.
Voilà.
Ah, vous êtes à Saint-Cloud.
Ouais.
Dans le 92.
Voilà.
Et vous êtes arrivé quand, du coup, à 50 ans?
Non, mais j'ai pas connu du tout Saint-Cloud. Je suis arrivée à Montigny. J'avais 9 mois.
D'accord. Vous êtes une
Donc, je suis une Montaigne.
Voilà. Tard, vous avez un petit peu bougé. Vous avez des frères et sœurs?
Oui, il faut que j'ai compte, hein. Joker.
Bon, vous avez des frères et des sœurs. La profession de vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents comme...
Alors, mes parents, bah, ma mère, elle était femme de ménage, et puis mon père, ouvrier chez Renault, comme la plupart des immigrés de l'époque.
Votre parcours scolaire?
Un parcours scolaire standard, donc du coup j'ai suivi une voie, on va dire, générale. Je savais pas non plus trop quoi faire. Maintenant les enfants ils sont plus facilement orientés vers leur domaine de prédilection. Je suis partie vers le secrétariat, bon ça me plaisait pas trop. Après je suis partie à l'université parce que mon père voulait absolument que je reste pas comme ça sans rien faire après le bac. Mmh. Donc je suis allée à l'université, j'ai gravité un petit peu dans toutes les sections, je suis revenue sur le BTS assistant de direction. Et puis bon bah de fil en aiguille, même au niveau de parce qu'après le parcours scolaire, on vient au parcours professionnel, j'ai continué sur cette voie-là.
Justement, vos débuts professionnels, vous en souvenez?
Alors, mes débuts professionnels, en toute vérité...
Parce que vous étiez d'abord à le secrétariat, ça on comprend que ouais. Bon, c'était pas forcément une passion.
Ouais. Mais en fait, mon vrai parcours professionnel, c'est ce que je faisais en off, j'ai envie de dire. Parce que mes premières armes, c'est quand j'ai fait partie de l'ASMA, c'est une association de quartier, donc en tant que bénévole. J'ai commencé très jeune à chercher des lots, à participer aux stands, des choses comme ça. Et puis toute ma vie, tout au long de mon parcours scolaire, et professionnel à côté, j'ai toujours été bénévole dans des associations, que ce soit culturelles, sportives. J'ai toujours un peu gravité autour de tout ça.
D'ailleurs, je le dis aux auditrices, aux auditeurs, quand j'ai reçu votre CV, j'ai dit, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup d'expériences associatives. Voilà, toujours en parallèle, évidemment, il faut que vous vous nourrissiez et que vous mangez. Donc, vous aviez forcément un travail à côté.
Voilà.
Voilà, il y a énormément, je les compte plus. Voilà donc pour cette carte d'identité qui se termine par la traditionnelle question, un petit peu large. Alors, quelles sont vos passions, Ourissi?
Mes passions.
Ouais. Alors, on l'a compris, la vie associative.
C'est ça. Ouais. J'aime bien dessiner. Ouais. J'adore dessiner. Je suis pas une pro, mais j'aime bien. Sincèrement, j'aime bien tout ce qui est artistique. C'est l'une de mes principales passions.
Bah, vous le disiez tout à l'heure par rapport à l'école, parce que je ne sais pas si vous vous ennuyez plutôt à l'école ou si vous ne trouviez pas forcément votre voie, mais est-ce qu'il y avait un côté artistique que vous avez un peu trouvé à l'école ou c'est ce qui manquait?
Bah, j'avais des 20 sur 20 en dessin, ça c'est sûr. Ouais. pratiquement aussi des 20 sur 20 en sport. Sinon, après, dans les autres matières, je restais dans la norme, on va dire. J'ai toujours bien bossé, je n'étais pas une feignante. C'est un peu comme mon esprit de compétitrice. Je n'aime pas ne pas réussir. Donc, j'ai eu un parcours scolaire, on va dire, standard, studieuse.
Alors, justement, compétitrice, vous l'êtes, vous l'étiez, vous l'êtes toujours. Hein. Vous entraînez notamment pour la PSG Academy, les U8, c'est-à-dire les moins de 8 ans, les moins de 4 ans aussi.
Entre ces âges-là. Donc, actuellement, ça va c'est U4 jusqu'à U8. Parce que j'ai des enfants qui vont de 4 ans, de 5 ans plutôt. Non, le plus jeune, il a 4 ans et demi. Donc 4 ans et demi jusqu'à 7 ans et demi.
Vous avez vu quelque chose de terrible, Lourici.
Ah,
hein, pour une personne qui est multitâche, multicarte, qui a envie de faire beaucoup de choses,
ouais.
Le confinement.
Ouais.
Alors, comment vous l'avez vécu, ce confinement? Alors, il en est sorti de belles choses, hein, puisqu'on a, j'ai dans les mains les deux premiers tomes de Mama Vovo. Donc ça, c'est votre projet que vous étiez venu présenter ici à Marmite FM. Alors, avant de venir justement à ce projet, comment il est né, le projet? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, ce confinement, pour moi qui ai envie de faire trop de choses, ou plein de choses en tout cas, il faut que je fasse quelque chose? Est-ce que vous l'aviez déjà un petit peu avant? Voilà. Comment il s'est passé, ce confinement, pour vous?
Alors, je ne l'ai pas réfléchi du tout, je ne l'ai pas pensé, je ne m'attendais pas non plus à faire ça cette année, puisque pour moi, ça c'était un rêve, un projet que je voulais faire à l'époque de mes enfants, à la base. Un livre qui raconte un petit peu le parcours de mes enfants.
Quand vos enfants étaient plus jeunes.
Quand ils étaient plus jeunes, voilà. Parce que là, actuellement, ils ont 15 et 12 ans. Et là, il s'avère que, avec le travail, je n'avais pas assez de temps pour faire ces petits livres qui racontent l'histoire de mes enfants. Là, l'histoire de Mama, ça arrivait comme ça, une nuit, ma soeur elle m'appelle en catastrophe, je sais pas comment faire avec Mama, hein, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce que tu peux pas lui parler, ma première approche avec les enfants, parce que faut tout, pour moi je sais qu'avec les enfants, tout se passe à travers le dialogue.
Est-ce que tu peux pas lui parler par parenthèse, parce qu'il y avait un souci?
Alors, elle n'arrivait pas à aller au pot.
Elle n'arrivait pas à aller au pot.
C'est pour ça que j'ai créé le livre, le premier livre, Mama va au pot. Voilà. Merci beaucoup. Merci de le préciser.
Voilà. Donc, parce qu'elle n'allait pas au pot.
Voilà.
Donc, elle vous a appelé un peu à la rescousse.
Voilà, tout à fait. Vers minuit, je commence à griffonner. Comment je pourrais lui dire les choses. Et puis, en regardant plus attentivement, je vois que ça ressemble à une histoire. Donc du coup, sur un petit calepin, j'ai transformé le calepin en livre tout de suite, dans la nuit, du coup, ça m'a pris une heure. Et j'ai dessiné à côté des petites images, et puis j'ai envoyé sur WhatsApp, j'ai raconté l'histoire à travers WhatsApp à ma sœur, qui l'a écoutée le lendemain. Elle m'a dit, c'est génial, je vais lui faire écouter, et puis ça a marché tout de suite. En fait, ça l'a motivée, et puis comme elle dit, t'es trop fière de moi, tata, et c'est pour ça que dans l'histoire, je mets très souvent empli de fierté, parce que à chaque fois, c'est cette phrase qui sort, tata, est-ce que tu es fière de moi? Donc oui, je suis fière de toi, si tu m'entends.
Même si le pot maintenant, c'est...
C'est du passé, mais bon, après, c'est bientôt l'heure de son petit frère. Hein.
qui arrive également. Alors, on en a fait une petite héroïne noire.
Oui.
Alors, quand on voit ça dans les étals, dans les librairies ou tout ça, on se dit, ah tiens, il n'y a pas beaucoup de petites filles qui lui ressemblent. Voilà. Est-ce que ça a été une motivation? Est-ce que ça a été quelque chose que vous a traversé?
Non.
Est-ce que c'est une question vous posez, vous également?
Qu'on me pose, et du coup, moi, sincèrement, la première fois qu'on m'a dit ça, je fais, ah ouais, c'est vrai. Parce que franchement, sur le coup, c'était même pas du tout ça mon objectif. Hein. Mm-hmm. Vraiment, c'était vraiment raconter cette histoire. Et puis surtout, à travers ces histoires, que les enfants puissent se retrouver, Je voulais pas faire une histoire compliquée. Fallait simplement que ça soit une histoire qui relate très rapidement, très brièvement, comment elle vit la chose et comment ses parents l'accompagnent. Et la finalité toujours positive.
Voilà, donc ça, en tout cas, vous aviez lancé une campagne de participative, voilà, pour
recueillir.
Voilà. Du coup, ça a marché, parce que vous avez réussi finalement à avoir votre objectif qui était de combien initialement?
Il me semble que c'était 2500.
Voilà, que vous avez dépassé.
Voilà.
Donc, le projet a pu se faire. Et d'ailleurs, vous avez tenu à reverser une partie des fonds à une association.
Donc, il faut savoir que chaque livre soutient une association en particulier. Donc, en fait, Mama Vaopo soutient l'association La Pouponnière de Mbour.
Mbour, c'est au Sénégal.
C'est au Sénégal. Et le second tome, c'est Mama, Mama et le Loup, qui soutient l'association Les Bagueuses à Manon, qui est située sur Vélizy. Donc, je voulais pas que ça soit une association qui ait, entre guillemets, l'entièreté des fonds des livres. Je voulais vraiment que ça puisse servir une diversité d'associations parce que je veux pas sectoriser le cœur de Mama, et je voulais que Mama soit pour tous les enfants, comme je l'ai toujours été.
Et justement, vous venez de parler à l'instant de Mbour par rapport à cette première association pour laquelle les fonds étaient reversés. Mmh. Quel rapport est-ce que vous avez avec, pour vous qui êtes né à Saint-Cloud,
oui,
à quelques kilomètres seulement du Sénégal, mais pas vos parents,
ouais.
Quel rapport vous avez avec le Sénégal,
ouais.
Vous y allez régulièrement?
Même pas du
chose
tout,
que vous parce transmettre,
que mes parents, ils sont issus de Fouta, donc Tigéré Yéné et Tigéré Siré, donc ça n'a rien à voir.
Alors le Fouta, on peut dire que c'est la campagne
qui
est là.
Ouais. Donc ça a vraiment rien à voir, mais c'est lors de mon premier voyage au Sénégal avec mes enfants, je tiens à préciser parce que j'ai été au Sénégal avant mes enfants, avec une maman, on a décidé d'aller au-delà de là où on était habituellement, parce qu'on était parti dans un hôtel, all inclusive, donc on allait voir notre famille, on allait un petit peu autour dans le quartier, et puis on a voulu, elle était un peu comme moi, très associative, et donc on voulait aider une association, on s'est dit on va aller dans une pouponnière, on va voir s'il n'y en a pas une à côté, et notre guide nous a proposé la pouponnière de Mbour, qui était pas très loin de là où on logeait pendant les vacances. Et du coup, on a visité la pouponnière, donc la pouponnière de Mbour. On a été très, je dis pas marqué, mais très intéressé par l'effort, surtout que consacrait cette association, qui a de multiples casquettes d'ailleurs, et qui prend soin de ses enfants, dont les parents soit ont du mal à s'en occuper ou ne peuvent pas s'en occuper, ou qui ont perdu leurs parents. Donc on a fait notre premier don alimentaire auprès de cette association, et du coup elle m'est venue tout de suite, cette association. J'ai dit c'est la première association que je vais aider à travers mes livres, c'était la pouponnière de Mbour.
Donc ça c'est venu tout naturellement.
Voilà, après.
On va continuer au récit avec notre invité donc sur Marmite FM 88.
Et voilà, c'est la fin de l'extrait du podcast de chez Marmite FM 88.4 FM. C'est le numéro de la station. Très chère Team Mama, je vous remercie de votre écoute et je vous invite à liker et partager le podcast Les Aventures de Mama sur Anchor, Facebook, Instagram et YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et surtout de bonnes fêtes de fin d'année. Rastafari!